Bonjour, Tristan Girardeau, enseignant en histoire-géographie au Collège Rabelais de Poitiers.
Bonjour, Philippe Marie, enseignant d'EPS au Collège Rabelais de Poitiers.
Bienvenue à la saison 2 du projet Olympisme entre élèves de 3e et 1ère du LP2I. C'est un projet particulier où on lie des élèves de 3e et des élèves de 1ère pour aider au tutorat entre lycée et collège sur le thème de la géopolitique.
Vous allez écouter le résultat final du travail sur toute l'année des élèves de 3e. Ce seront des podcasts radio où ils le traiteront de différents Jeux Olympiques sous forme géopolitique à travers des questions historiques, géographiques et politiques.
Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la radio Delta FM, je me présente, je m'appelle Nirvan Ibrahim et je suis accompagné de trois camarades ici présents, Louis, Harris et Liam. On va vous présenter les JO d'Atlanta de 1996 qui se sont précisément passés aux États-Unis. On parlera de quatre grands thèmes qui sont tous en lien avec la ville d'Atlanta et les JO. On parlera d'histoire, de géographie, de sciences politiques et de géopolitique. Pour commencer, on va attaquer l'histoire avec Louis. Comment s'est terminée la guerre froide quelques années auparavant, avant les JO de 1996 ?
Bonjour, donc je vais vous présenter le contexte historique qui s'est passé avant les Jeux Olympiques de 1996. La guerre froide a commencé après la Seconde Guerre mondiale, vers la fin des années 1940, et a duré jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique en 1991. Pendant cette période, il n'y a pas eu de conflit direct entre les deux superpuissances, mais plutôt des confrontations idéologiques, des courses à l'armement. La guerre froide a impliqué principalement les États-Unis et l'Union soviétique, qui étaient les deux superpuissances de l'époque. Les États-Unis étaient soutenus par des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne de l'Ouest, formant le bloc occidental. L'Union soviétique avait des alliés tels que la Chine, la Corée du Nord ou Cuba, formant le bloc oriental. En ce qui concerne les victimes, il est difficile de donner un chiffre précis, car la guerre froide n'a pas été marquée par des batailles majeures ou des pertes massives en termes de morts au combat. La guerre froide a pris fin de manière symbolique avec la chute du mur de Berlin. Le mur de Berlin était une barrière physique qui divisait la ville de Berlin en deux. L'Est contrôlé par l'URSS et l'Ouest contrôlé par les alliés occidentaux, principalement les États-Unis. Le mur de Berlin était un symbole de la division entre les deux blocs et de la répression exercée par le bloc de l'Est. En 1989, suite à des manifestations populaires et à des pressions internationales, le gouvernement est-allemand a ouvert les frontières et le mur de Berlin est tombé. Cet événement historique a marqué la fin de la guerre froide et à l'effondrement de l'URSS, qui sera remplacé par la Fédération de Russie, et cela ouvrera la voie à la réunification de l'Allemagne.
Alors merci Louis pour cette partie historique, on va maintenant passer au thème de la géographie que je vais vous présenter maintenant. Quelles sont les conséquences géographiques de la construction d'infrastructures sportives à Atlanta pour les JO de 1996 ? Comme vous le savez tous, les JO de 1996 se sont déroulés à Atlanta. Plusieurs infrastructures ont été construites, le centre des Jeux d'Atlanta et le parc du Centenaire à son centre. On y trouvait le stade olympique contenant 85 000 places. Sa construction a coûté la somme de 207 millions de dollars. Les constructions ont donc commencé le 10 juillet 1993 pour se finir le 27 août 1996. Il y a des structures encore visibles des Jeux Olympiques qui sont donc tous dispersés dans toute la ville. 17 sites existaient déjà auparavant. 9 ont été construits, dont 8 qui sont encore largement utilisés. Des grandes universités de la ville continuent actuellement de profiter des sites olympiques. Exemple, construit pour les JO, le Georgia Tech Aquatic Center est resté un pôle d'activité sportive de niveau olympique. Il est même devenu un atout prospère pour la communauté, où sont dispensés des cours et qui hébergent des clubs ouverts au public tous les jours. En conclusion, les infrastructures qui étaient construites dans la ville d'Atlanta ont eu un impact positif sur la ville avec des reconversions des héritages olympiques et des sites toujours utilisés. C'est tout pour notre partie géographique. On passe maintenant à la science politique avec Liam. Alors, quelles sont les ambitions et les intentions de la ville d'Atlanta et du gouvernement américain en accueillant les Jeux Olympiques de 1996 ? Et que nous dit l'attentat ?
Bonjour, moi c'est Liam. Comme vous a dit mon collègue, je vais vous parler de sciences politiques à Atlanta pendant les JO de 96. Les Jeux Olympiques de 1996 ont contribué à faire d'Atlanta la capitale économique du sud-est de la Géorgie, car 18 entreprises d'Atlanta, les plus grosses, ont été classées dans les 500 premières entreprises américaines, grâce aux chiffres d'affaires obtenus avec l'organisation des JO dans Atlanta. À l'aide de ces derniers, de nombreuses personnes talentueuses ainsi que de grosses entreprises se sont intéressées et installées dans le périmètre d'Atlanta. Car les JO ont donné de la visibilité à la ville américaine, Avant les Jeux, les ambitions et intentions d'Atlanta étaient de donner un second souffle, de la visibilité, ou encore de faire fonctionner l'économie de la ville grâce à la visibilité mondiale des JO. Dans la nuit du 27 juillet 1996, une bombe explose dans une foule dans un concert dans le parc du Centenaire à Atlanta. L'attentat tue une personne et en blesse une centaine. L'auteur présumé est Eric Robert Rudolph, un suprémaciste blanc qui justifiera ces attentats par des motivations religieuses, entre autres chrétiennes. Cet attentat est un parmi tant d'autres, car il y a plusieurs attentats avec les mêmes revendications aux États-Unis, c'est-à-dire des revendications suprémacistes commis pendant une vingtaine d'années aux États-Unis. On peut supposer qu'entre les années 90, 2000, voire 2010, les États-Unis étaient touchés par des tensions anti-américanistes avec plusieurs attentats, notamment l'attentat de septembre 2001 avec le tragique détournement d'avion.
Voilà pour la science politique, merci Liam. On va donc passer au dernier thème qui est donc la géopolitique avec Harris. En 1996, on parle d'une certaine hyperpuissance pour les États-Unis. Est-ce la seule dans le monde et comment les JO de 1996 le montrent ?
Alors déjà, bonjour à tous, je m'appelle Harris. Je vais aujourd'hui, dans les instants qui vont suivre, vous énoncer notre partie géopolitique. Alors pour commencer, nous allons commencer par une petite reconstitution historique. La guerre froide débuta en 1947. Les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire l'URSS, sont les deux seules hyperpuissances à cette époque. En 1989, à la fin de la guerre froide, un tournant a eu lieu pour l'URSS. Les États-Unis ont réussi à maintenir leur place en tant que hyperpuissance, mais pour l'URSS, ils n'ont pas réussi à maintenir leur rang d'hyperpuissance. Revenons en 1996, où a eu lieu les JO d'été à Atlanta. La ville d'Atlanta sait que cet événement pourra la mener au rang d'une possible capitale économique. Les JO sont un moyen de s'enrichir, mais aussi de pouvoir montrer ses capacités financières. Et c'est ce que Atlanta a fait, à travers les transports, les infrastructures et les sponsors. Leur but est de montrer leur étendue et leur capacité économique. Merci de m'avoir écouté.
Merci Harris pour cette dernière partie. Mes amis, cette séance touche donc à sa fin. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous souhaite à tous une très bonne journée.
Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez sur Delta FM et vous êtes bien avec le journaliste Elias Gonzalez. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de trois jeunes camarades qui ont accepté de faire le déplacement jusqu'ici pour répondre à mes questions. Des questions à propos des Jeux Olympiques qui auront lieu cet été à Paris. Les garçons, voulez-vous bien vous présenter et présenter ce que vous allez nous parler ?
Alors bonjour à tous, je m'appelle Mathéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les épreuves qui se dérouleront dans toute la France et en métropole et en Outre-mer.
Bonjour à tous, je m'appelle Youssouf et je vais vous présenter la puissance économique d'aujourd'hui.
Bonjour à tous, c'est Dylan, je vais vous parler des intentions de Paris et de la France quand elle organise les Jeux Olympiques.
Très bien, merci. Alors Mathéo, présente-nous les critères sur lesquels ont été aménagés les sites olympiques de Paris 2024, tels que les stades, les infrastructures et les équipements sportifs rénovés pour les Jeux.
Alors oui, bien sûr. Cette année, à Paris, ce sont 15 sites de compétition pour les Jeux Olympiques et 11 sites pour les Jeux Paralympiques qui formeront un concept compact avec 95% d'infrastructures existantes, comme le stade Roland-Garros ou le Parc des Princes. Les sites temporaires, eux, s'installeront en plein cœur de la capitale pour un spectacle sportif, culturel et patrimonial. Durant les Jeux Olympiques et Paralympiques, plus de 15 000 athlètes viendront s'entraîner dans la capitale. À Paris, 5 sites sont actuellement rénovés et mis en accessibilité pour accueillir les athlètes dans de bonnes conditions.
Et Mathéo, tu nous as parlé de 5 sites mis en rénovation pour les athlètes. Pourrais-tu nous en citer quelques-uns ?
Eh bien oui, les sites actuellement rénovés sont par exemple les piscines Valray et Dauvin, qui seront bientôt terminés pour les JO de cette année.
Très bien.
Alors qu'une large minorité des infrastructures utilisées pour les JO étaient déjà existantes, telles que le Stade de France, Bercy, Roland-Garros, Défense Arena, de nouveaux lieux devraient être construits, comme Arena Porte de la Chapelle et le Centre Aquatique de Saint-Denis.
Merci Mathéo, c'était très intéressant. Maintenant, Dylan, à toi, explique-nous les intentions de Paris et de la France quand elle organise les JO de cet été.
En organisant les JO, Paris a des intentions précises comme par exemple contribuer à la lutte contre le changement climatique et mettre en place un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Paris 2024 s'est fixé l'objectif de diviser par deux l'empreinte carbone des Jeux par rapport à la moyenne de l'édition précédente.
Et dans tout ça, c'est quoi les intérêts de Paris quand ils organisent ces Jeux ?
Il est de rassembler tous les fans de sport et de faire oublier les conflits pendant la période des Jeux. En accueillant les Jeux, la France sécurisera et accélérera certains grands projets d'infrastructure dans le département, boostera l'activité et celle des demandes d'emploi.
Merci Dylan. Youssouf, présente-nous les 6 premières puissances économiques dans le monde et leur contexte.
Oui, les 6 premières puissances économiques d'aujourd'hui sont les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Japon. Toutes ces puissances économiques possèdent entre 1,5% et 3,2% de la puissance mondiale économique.
Et entre ces pays, il n'y a pas des rivalités ou quelque chose ?
Il existe une rivalité de long terme entre les États-Unis et la Chine. Plus précisément, un conflit commercial constitué de hausses de taxes et de menaces entre la Chine et les États-Unis. Lancé sous la présidence de Donald Trump en 2018 et le président de Chine en janvier 2020.
Très bien, merci messieurs d'avoir répondu à mes questions et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'est fini.
Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM pour l'émission sur les jeux de la Discorde. Je suis accompagnée de Nina, Clara et Lana, trois spécialistes dans l'histoire, la géographie, la science politique et la géopolitique. Elles vont nous parler des Jeux Olympiques de 2008 en Chine et plus précisément à Pékin. Et aujourd'hui, je vais leur poser des questions par les auditeurs. Comment la Chine est-elle devenue un État communiste en 1949 ?
En 1949, la Chine est devenue un État communiste, sous le commandement de Mao Zedong et du Parti communiste chinois. La guerre civile en Chine entre 1927 et 1949 a opposé le parti nationaliste de Chiang Kai-shek au parti communiste de Mao Zedong. Ce moment dans l'histoire de la Chine a été déterminant car elle a marqué la fin de la domination impériale et le début du régime communiste qui allait influencer profondément la Chine pendant plusieurs décennies. Mais la Chine était toujours un pays économiquement faible et les JO étaient une façon de relancer cette économie.
Quelles sont les conséquences des JO sur la géographie de Pékin ?
Les Jeux Olympiques ont eu de grandes conséquences sur la géographie de Pékin. L'organisation des JO de 2008 a entraîné d'importants projets d'infrastructure, notamment la construction de nouveaux stades, de villages olympiques, de routes et de réseaux de transport.
Ces développements ont aussi souvent modifié les zones urbaines, créé de nouveaux quartiers et favorisé la modernisation de l'aspect physique de la ville. Les JO ont aussi souvent contribué au développement économique local et ont un impact sur la planification urbaine.
Quelle est l'intention politique de la Chine quand elle organise ces JO ?
L'organisation des JO par la Chine a souvent été associée à plusieurs intentions politiques. En premier, les autorités chinoises ont utilisé les JO comme une opportunité et présenté la Chine au monde en tant que nation moderne, puissante et accueillante. Cela a servi à renforcer la légitimité du Parti communiste chinois et à promouvoir une image positive à l'échelle internationale. Les JO ont servi à unifier le pays et sa population. Enfin, ils ont également été considérés comme un moyen d'encourager le développement économique, notamment dans le secteur du tourisme et des bâtiments.
Une photo qui a illustré un article du journal Le Monde intitulé « Les chantiers de la démesure ». Pourquoi peut-on parler de démesure ?
Après l'annonce du lieu des JO, des gigantesques travaux ont commencé dans Pékin pour aménager la ville et créer des structures capables d'accueillir autant de monde. Des piscines, des stades sont sortis de terre en un temps record, mais ont aussi coûté très cher, environ 42 milliards de dollars.
On peut parler de démesure, car les travaux de ces JO ont une ampleur exceptionnelle avec des projets de construction ou de développement pour faire repartir l'économie de la Chine. On peut aussi parler de démesure, car les bâtiments ont des dimensions extraordinaires et des réalisations architecturales impressionnantes.
En quoi les JO de 2008 montrent-ils le basculement vers un monde multipolaire ?
Les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin ont été interprétés comme un signe du basculement vers un monde multipolaire en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la Chine a utilisé ces JO pour affirmer son statut en tant que puissance mondiale émergente, mettant en lumière son développement économique rapide et sa capacité à organiser un événement d'une telle envergure. Deuxièmement, la participation massive de pays émergents et en développement aux JO a souligné l'évolution du pouvoir mondial vers plusieurs centres plutôt que d'être centré uniquement dans les mains des nations occidentales.
En résumé sur tout ce qu'on a dit, les JO de 2008 ont symbolisé le rôle croissant des puissances non occidentales dans le façonnement de l'ordre mondial, marquant ainsi une transition vers un monde multipolaire.
Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Delta FM.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a marqué l'histoire des JO, Munich 72. Pour nous accompagner tout au long de cet épisode, nous avons invité deux historiennes, chacune spécialisée dans un domaine. À ma droite, Mila, spécialisée dans l'histoire et la géographie.
Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir.
Et Elisa, historienne, mais cette fois spécialisée dans la science politique et la géopolitique.
Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous et de pouvoir participer à votre émission.
Nous allons voir comment les tensions entre l'Israël et la Palestine, qui ont commencé depuis 1948, ont eu un impact sur les Jeux Olympiques et comment on a pu arriver jusqu'à un attentat. Mila, je vous donne la parole.
Eh bien, le conflit entre la Palestine et l'Israël est lié à une guerre de religion et un désaccord territorial. Les tensions sont dues à la Deuxième Guerre mondiale qui a violenté et chassé beaucoup de Juifs qui sont allés se réfugier en Palestine. Ils ont ensuite voulu avoir un territoire consacré à leur religion et propre aux Juifs. Mais le problème, c'est que beaucoup de pays veulent les territoires proches de l'Orient car la terre y est fertile et qu'elle réunit trois religions, musulmanes, chrétiennes et juives.
Merci pour toutes ces informations, mais pouvez-vous nous donner quelques détails supplémentaires s'il vous plaît ?
Bien sûr. L'événement a eu lieu les 5 et 6 septembre 1972 pendant les Jeux Olympiques qui se déroulent en Allemagne. 21 sportifs et entraîneurs ont été pris en otage, 11 athlètes, 5 terroristes et un policier sont morts.
Merci Mila. À présent, je me tourne vers vous Elisa. Quelles ont été les alliances formées par les deux superpuissances d'Amérique et l'URSS ?
Donc les deux superpuissances sont d'un côté les États-Unis et de l'autre l'URSS. À cette époque, les États-Unis sont alliés avec une grande partie de l'Europe, donc avec la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Italie, la France, le Luxembourg, mais aussi l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. L'URSS est principalement alliée avec l'Allemagne de l'Est, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, mais aussi la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique. Dans le Moyen-Orient, les principaux alliés aux États-Unis sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.
Merci pour toutes ces précisions de pays. Je reviens vers vous, Mila. Quelles sont les conséquences géographiques de l'implantation d'infrastructures sportives de Munich ?
Eh bien, pour les Jeux Olympiques, des villages olympiques sont créés pour accueillir les athlètes et leurs équipes autour de la ville organisatrice, ce qui représente un budget important pour les comités nationaux. À Munich, le village olympique a été construit à Milberstofen am Arth, près du parc olympique en plein centre-ville, ce qui change des Jeux précédents. Avant, le village olympique était construit dans les quartiers en périphérie.
Et savez-vous combien d'argent ont été dépensés et dans quel but et infrastructure ?
Oui, dans cette nouvelle installation sportive olympique, plus de 481 millions d'euros ont été dépensés. Une grande majorité des lieux de compétition se situaient dans Munich. Un terrain de 300 hectares a été mis à disposition pour y construire le parc olympique où l'on peut trouver le village olympique, les villages pour la presse, mais aussi différents sites de compétition. 280 mètres de pistes, des tours pour la télévision, des caméras sont construits spécialement pour l'événement. Tous ces bâtiments furent imaginés par l'architecte allemand Günther Behnisch.
Waouh ! Merci beaucoup. Maintenant, Elisa, une dernière question pour vous. Quelles sont les intentions de l'Allemagne de l'Ouest, RFA, dans l'organisation de ces JO ?
Les enjeux de l'Allemagne, grâce aux Jeux Olympiques, sont principalement faits pour redonner une belle image du pays et montrer qu'elle n'est plus la même qu'à l'époque d'Hitler. Le pays veut montrer qu'elle a pu évoluer depuis la Seconde Guerre mondiale. L'accueil des Jeux Olympiques est fait pour arrêter et oublier les tragédies de la Seconde Guerre mondiale.
En conclusion, cette interview nous a permis de mieux comprendre les tensions entre l'Israël et la Palestine et comment celles-ci ont influencé les JO de Munich 1972. Nous avons également pu voir les alliances formées par les superpuissances américaines et soviétiques, ainsi que les conséquences géographiques des infrastructures sportives. Enfin, nous avons pu comprendre les intentions de l'Allemagne de l'Ouest dans l'organisation de ces JO olympiques. Merci à nos historiennes Elisa et Mila de nous avoir éclairés sur le sujet. Merci et au revoir.
Merci, c'était super.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Nous sommes ravis d'avoir partagé cet instant avec vous. À bientôt sur Delta FM.
Bonjour à tous.
Hello.
Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 mars. Nous sommes en compagnie de Éléonore, Anan et Alia. Et nous allons vous parler des Jeux Olympiques de 1968 et du mouvement des Black Panthers.
À l'occasion des 50 ans du mouvement Black Panthers, nous interviewons le fameux Tommy Smith qui a participé à cette contestation. Les JO de 68 ont eu lieu à Mexico, au Mexique. C'était une grande première pour le Mexique d'accueillir un tel événement.
Ces JO ont été marqués par le mouvement des Black Panthers. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, le choix de Mexico pour accueillir les Jeux Olympiques a été fortement controversé en raison de l'altitude élevée de la ville qui culmine à plus de 2300 mètres,
les pressions atmosphériques y sont inférieures d'environ 25% comparées à une ville près de la mer. Cela a des répercussions sur les performances sportives. Ces effets ont pour conséquence de favoriser les efforts en anaérobie, donc les efforts intenses et courts.
Maintenant, venons au sujet de notre podcast, les Black Panthers. Et pour cela, nous allons laisser place aux principales concernées.
Tommy Smith en personne.
Hello.
Bonjour Tommy, comment allez-vous?
I'm fine, thanks. And you?
Très bien, merci.
Très bien, très bien.
Nous débutons notre interview avec quelques questions de base. Tommy, êtes-vous nostalgique des JO 68?
Honestly, no, pas vraiment. Suite aux événements passés lors de ces JO, j'ai perdu mon travail, j'ai reçu des menaces de mort. Je ne peux vous décrire la difficulté de cette période.
Yes. Oui, oui.
Yes. Mais sinon, sous un autre point de vue, bien sûr que ces Jeux Olympiques me rendent nostalgique. Je me suis bien liée d'amitié avec John Carlos. Et c'est une amitié que je ne regrette absolument pas.
Très bien, prochaine question. Quelle était la signification de vos vêtements que vous portiez lors de votre contestation?
Ah, ok. Yes. Mes chaussettes noires avaient pour symbole de la... symbole de la pauvreté que vivaient et vivent toujours des Afro-Américains. Mon foulard était symbole d'oppression et d'esclavage et mon gant noir avait pour symbole les Black Panthers. Le point levé représente à la perfection notre mouvement.
Comment vous sentiez-vous face à plus de 400 000 millions de spectateurs?
À vrai dire, je ne me rendais pas compte de l'ampleur de ce symbole de lutte pour les droits civiques. Donc, logiquement, je ne me préoccupais pas du nombre de personnes présentes. Ce que je voulais, c'était être écouté et remarqué. Les États-Unis venaient de subir des émeutes raciales et nous nous devions de protester.
Qui d'autre participait à ce mouvement de protestation? Nous connaissons déjà John Carlos, mais y avait-il d'autres personnes?
John Carlos et moi étions les seuls à contester. Nous aurions voulu que plus de personnes le fassent avec nous, mais après notre contestation, les gens étaient de plus en plus intéressés par la cause et ils nous suivaient. La preuve même qu'en 2024, les gens continuent toujours à lever le poing et de nouveaux mouvements sont créés avec le temps comme Black Lives Matter, autrement dit BLM. Alors oui, peut-être que nous étions que deux au JO, mais nous avons poussé les gens à défendre et à se battre pour la cause noire.
Très bon combat, messieurs.
Thank you.
Passons. Combien de temps la hype de votre mouvement a-t-elle duré?
Je ne saurais vous dire combien de temps cela a duré, mais assez longtemps pour ce que plusieurs manifestations se produisent. Et comme je l'ai dit juste avant, ce combat est toujours d'actualité et j'en suis très très fière.
Vous en êtes très fière, certes, mais connaissiez-vous déjà le mouvement des Black Panthers avant les Jeux Olympiques?
Yes, of course. Je sais que je me répète, mais la cause noire est un combat qui me tenait, qui me tient et qui me tiendra toujours à cœur. Always. Donc oui, je connaissais ces mouvements avant les JO. Comme bon noir qui se respecte en cette période, se devait de connaître ce mouvement.
Votre famille était-elle en accord avec votre combat?
Oui, c'est une évidence. Bien sûr qu'ils sont avec moi. Sorry. Ma famille a toujours été de mon avis. Ils me soutiennent, me comprennent et m'aiment pour ce que je fais.
Quelles sont les grandes alliances, les tensions et les conflits internationaux de l'époque? Par exemple, pourquoi les relations entre Cuba et les États-Unis sont mauvaises depuis le début des années 60?
Les relations entre Cuba et les États-Unis sont marquées par l'embargo américain, ce qui signifie blocus en rapport avec le blocus économique mis en place par les États-Unis le 7 février 1962. Les relations sont neutres, mais elles se sont dégradées en 1960 quand les États-Unis décident de refuser d'acheter le sucre cubain. Et avec l'exportation des compagnies, leurs relations se sont plus que dégradées. Depuis, la relation américano-cubaine alterne de période en période.
Nous arrivons à la fin de notre interview, donc ce sera la dernière question. Avez-vous réussi à récupérer votre vie d'avant après cet événement marquant?
Au début, c'était compliqué, mais petit à petit, les choses s'amélioraient. Grâce à mon ancien métier, j'avais une assez belle fortune, je l'avoue. Et Dieu merci, je n'ai jamais manqué de rien. La seule chose que j'ai vraiment très mal vécue était les menaces de mort que je recevais. Cela devenait de plus en plus dur à vivre. C'était un grand plaisir pour moi de faire cette interview. Thank you. J'espère avoir pu vous donner davantage d'informations sur ce combat qui devrait être le combat de tous. Je dirais même qu'il ne devrait pas exister, mais dans la vie, tout n'est pas rose. Encore merci, vraiment.
C'est nous qui vous remercions. Cette interview fut enrichissante et pleine de surprises.
Un grand merci à notre très cher Tommy Smith, c'était un plaisir de vous recevoir parmi nous aujourd'hui.
C'est la fin de cette interview. Encore merci à Tommy Smith et c'était Anan, Eleonore et Alia en direct de Delta FM.
Bye.